Merci de votre présence. Je voulais encore juste préciser en tant qu'organisateur de cette rencontre avec André Burguière, avec Véronique Naoum, que donc l'idée de manœuvre que nous avons suivie en répondant à l'offre du 40e anniversaire, de ces célébrations du 40e anniversaire de l'école, c'est une confrontation en fait entre nos champs d'investigation singuliers en sciences humaines et sociales de manière générale, donc champs qui sont aussi nos champs évidemment d'enseignement, les problèmes sociaux auxquels singulièrement nous sommes confrontés et nos engagements concrets dans le cadre de la section LDH de l'EHESS, ceci pour essayer de suivre ce fil rouge de la réflexion qui, de manière théorique, ou plus particulièrement sur les problèmes sociaux auxquels qui nous sollicitent, conduit finalement à l'action. Alors, à propos du... Donc nous avons divisé, Emmanuel l'a dit, cette rencontre en trois sessions. La première donc portant sur le problème des migrants, des sans-papiers, avec ce sous-titre, de la Méditerranée à Calais. Pour introduire le problème, j'aimerais partir de chiffres qu'hélas vous connaissez, et qui ne sont que la conséquence, c'est la conséquence de la politique migratoire qui est conduite par différents pays de l'Union européenne, parmi lesquels évidemment la France. Donc 3419 migrants et migrantes morts en Méditerranée en 2014, 1867 au premier semestre de cette année, et près de 25 000 désormais depuis le début des années 2000. Des morts provoquées en partie par cette politique des murs qui s'étend peu à peu autour de la Méditerranée. Ça a commencé par les barrières érigées à Ceuta et Melilla dans cette partie espagnole du Maroc, ça va jusqu'au mur sur l'Evros au nord de la Grèce, et vous avez naturellement entendu parler désormais de cette barrière gardée d'ailleurs par des blindés qu'on a érigés en Bulgarie contre les migrants qui viennent de Turquie, et puis les barrières élevées dernièrement autour de la Hongrie pour protéger entre guillemets des migrants qui proviennent de Serbie d'un côté et qui essayaient de tourner la barrière qui avait été élevée à leur égard par la Croatie. Mais ces barrières existent aussi en France et en particulier à Calais, où on assiste à une espèce d'externalisation interne de la frontière de la Grande-Bretagne, puisque c'est avec l'aide de la Grande-Bretagne et de sa ministre de l'Intérieur que ces barrières élevées autour du port de Calais et désormais à l'entrée même du tunnel sont élevées, renforcées avec toutes les mesures répressives que cela implique. Migrants, donc, une catégorie qui est une catégorie floue, qu'on essaie désormais, vous l'avez vu, de poser à celle de réfugiés, parlant d'un côté de crise des migrants, par ailleurs de vagues de réfugiés. Et c'est ici que la recherche en anthropologie et en anthropologie historique, en ce qui me concerne, engage à critiquer ces catégories, à tenter de reformuler éventuellement certaines d'entre elles. En effet, en ce qui concerne les réfugiés, les migrants, et je vais venir au sans-papiers pour terminer, elles entretiennent plusieurs malentendus. Il y a d'abord cette tentative promue par Hollande d'un côté, Merkel de l'autre, à l'intérieur de l'Union européenne, d'instituer un tri, et d'instituer un tri déjà aux frontières de l'Europe, entre d'une part les réfugiés qui seraient victimes de faits de guerre, et puis par ailleurs des migrants qui seraient réfugiés économiques et qu'on accuse d'immigration et d'immigration illégale. Et en fait, il s'agit d'un double tri, puisque le statut de réfugié correspond en fait à un statut individuel au sens de la Convention de Genève de 1951. Le réfugié, dans cette mesure, devient demandeur d'asile, mais s'il n'a pas droit à déposer une demande d'asile et s'il n'obtient pas le statut de réfugié, il est naturellement expulsé, de même que les migrants. Et les malentendus règnent aussi sur les causes de l'immigration, c'est-à-dire naturellement les situations de guerre, de là évidemment les Syriens, mais aussi les Érythréens, plus en amont les Afghans, mais par ailleurs aussi cette pauvreté, ce dénuement extrême qui règne dans beaucoup de pays de la périphérie de l'Europe, qui s'accompagne de situations de répression, et les unes et les autres ont très globalement la même origine. Ça pourrait être le sujet de notre discussion. Et ces malentendus, pour terminer, sont entretenus par une troisième catégorie, et cette troisième catégorie, c'est celle dont on va parler maintenant, c'est celle des sans-papiers, des gens qu'on appelle les sans-papiers. En fait, ce sont des gens sans statut. Des personnes qui n'ont pas de... des migrants, si vous voulez, des migrants, mais qui n'ont pas de statut reconnu, qui n'ont pas de permis de résidence. Et étant donné les jeux sur ces catégories, il est évident qu'il convient maintenant de les soumettre à la critique, à la discussion, éventuellement à la reformulation, pour autant que ce soit nécessaire. Alors, je passe... c'est toi. Très bien.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Emeline Zoukbédé, je suis...
Une seconde. Est-ce qu'on pourrait essayer d'aller chercher des chaises?
Oui. Est-ce qu'il n'y en a pas encore quelques-unes là derrière? Ou bien...
Non,
on a épuisé le stock.
Alors,
il y en a encore une ici, au moins. Et puis ce que je propose, c'est peut-être d'avancer ces chaises de manière à ce que quelqu'un se puisse s'asseoir sur la table, pas plus confortable.
Ah oui,
si on les...
Voilà.
Dix minutes, ça ne vous en prive pas.
Oui, mais dix, mais je
verrai
comment ça va. Dix,
vingt.
Je pourrais avancer. Merci. Je vais essayer d'être sympathique.
Oui.
Bon,
c'est bon.
Voilà, allez-y.
Alors, je reprends. Donc, je m'appelle Emeline Zoukbédé. Je suis doctorante. Je suis doctorante à l'Université Paris-Descartes. Et je vais vous parler de quelques parcours migratoires que j'ai pu récolter au travers d'entretiens que j'ai conduits avec des migrants de la vallée du fleuve Sénégal à Paris. Donc, en gros, ma question de base va être, en fait, en regardant tout ce qui se passe dans l'actualité, de voir comment les frontières européennes qui deviennent de plus en plus intelligentes, de plus en plus informatisés, militarisés, sécurisés, etc. Comment des personnes ressortissant des pays tiers arrivent malgré tout à arriver sur le territoire européen et dans le cas présent en France. Donc, alors je vais d'abord noter tout d'abord que la population dont il s'agit ici est celle d'hommes issus du monde rural, peu voire pas alphabétisés, et qui peuvent être considérés comme jeunes. D'après ce que nous dit un sociologue, Éric de Rony, et par jeunes, il entend ceux et celles qui n'ont pas encore de statut social, par exemple les célibataires. Ainsi, des personnes de 30 ans se considèrent-elles comme telles? J'ajouterai que les jeunes que j'ai suivis pendant mon doctorat sont entrés en France au cours des années 2000 et que le matériau empirique sur lequel repose ce qui va être dit est principalement constitué d'un corpus de 28 entretiens menés entre 2012 et 2014. Par ailleurs, j'identifierai deux concepts avant d'entrer dans le cœur de ma présentation. Le premier est un concept que je reprends d'Anne-Sophine Bruno, qu'il reprend de Abbott, qui est celui d'identité de papier et qui définit un individu comme protégé, étranger ou national. Le second concept peut faire référence à ce que Jorgen Carling appelait « immigration interface » concernant l'immigration des Cap-Verdiens et qu'il établissait comme des structures d'obstacles et d'opportunités. Dans ma proposition, il s'agit d'interstices de jeu qui permettent à tout un chacun de créer des espaces d'opportunités pour détourner, négocier ce qui doit être pour pouvoir être. Ma présentation se structure en deux temps. Le premier temps revient sur les causes d'immigration des hommes rencontrés et le deuxième présente quelques parcours migratoires qui concerne les voies aériennes et terrestres et maritimes. Alors, pour le dire brièvement, la plupart des hommes que j'ai rencontrés sont entrés en France, sont partis en migration et ont évoqué le travail comme raison principale de leur migration. Ils ont ainsi migré pour subvenir aux besoins de leur famille, pour pouvoir construire un futur foyer, se marier en amassant le pécule nécessaire, pour pouvoir aussi projeter d'autres formes de travail que celles de l'agriculture ou de l'élevage. Ils sont en définitive partis pour obtenir un statut social espéré et escompté au sein de leur société d'origine. Et aussi s'émanciper pour les cadets de la dépendance des aînés. C'est ainsi qu'il me semble pouvoir attacher cette migration à celle des hommes, celle de leur père en fait, venu dans les années 60. Et du coup, pour moi, cette migration des hommes que j'observe actuellement constitue ce que j'appelle des migrations généalogiques, constituées de multiples réseaux de parentèle où les aînés et les cadets se retrouvent en migration. Je tiens aussi ici à souligner qu'il ne peut pas être convaincant de penser le travail comme le seul paramètre dans la définition des situations migratoires. En effet, d'aucuns m'ont confié secondairement, premièrement, qu'ils étaient aussi venus en France par rapport à ce que des migrants installés en France ramenaient, enfin, des migrants installés en France de retour en vacances au pays, racontaient sur leur séjour en France et rapportaient dans leur valise. Et aussi parce que les médias disaient, notamment, on peut prendre par exemple France 24. C'est ainsi qu'un jeune Malien qui est arrivé en France en mars 2010 et qui avait 27 ans dans notre entretien, qui était sans papier et qui travaillait dans un restaurant des Champs-Élysées comme commis cuisine en CDI, m'a dit, je lui demandais la question en fait à savoir s'il voulait venir en France ou s'il voulait venir ailleurs en Europe premièrement. Il m'a dit, non, mon objectif était de venir en France. Vu que le Mali est une colonie française, j'entendais toujours parler de la France. C'était mon pays de rêve aussi, la puissance de la France, voir comment la société française fonctionne. Donc, à ce titre, je pense que les situations postcoloniales telles que les définit Marie-Claude Smoos n'ont pas renvoyant d'une séquence d'avant et après le temps de la colonisation, mais, et je la cite, comme l'enchevêtrement des temps et des territoires, englobant alors toutes les phases de la colonisation, le temps des empires, le temps des indépendances, la période qui a suivi ces indépendances et le temps d'aujourd'hui, est à prendre en compte dans le parcours des personnes rencontrées. Donc, nous avons à ce stade des récits des parcours migratoires, que je retranscris de manière linéaire. D'un côté, des hommes qui veulent s'émanciper de leurs dépendances aînées, qui veulent parcourir le monde, entrer dans ce que Balandier appelait le nouveau monde. Et d'un autre côté, nous avons une Europe forteresse, un monde européen fermé sur lui-même et de plus en plus craintif. Donc je vais vous parler de la première voie qui mène au territoire européen, qui est celle de la voie aérienne. Sili est un jeune Malien de 24 ans, enfin qui avait 24 ans quand on s'est rencontré, et qui est arrivé en France en 2010, qui était sans titre de séjour et sans emploi à l'époque. Il m'a raconté comment il avait réussi à obtenir un visa. Ce fut par l'intermédiaire de son oncle, installé à Bamako depuis un long moment, connaisseur de ce genre d'affaires. Que Sili a cherché le visa, et je tiens à souligner l'expression « chercher le visa ». Cette expression est heuristique pour moi, car elle contient en germe les multiples contradictions entre les rigidités et les formalités administratives et la part d'appréciation, voire d'arbitraire, laissée aux agents consulaires, acteurs clés de la délivrance des visas, et qui permet aussi la greffe, de réseaux de trafiquants. Donc, pour obtenir un visa, des rendez-vous doivent être pris, une coquette somme d'argent prête à être dépensée, comme en témoigne l'exemple de l'ambassade de France au Mali. Ici, le requérant un visa doit savoir qu'il devra s'acquitter de frais de dossier de 60 euros environ, qui ne le seront pas remboursés si la demande de visa n'aboutit pas, et sauf pour des cas exceptionnels, le billet d'avion sera exigé comme pièce à joindre au dossier. Toujours sans la certitude d'obtenir ce fameux visa. En outre, les consulats et les ambassades ne fonctionnent pas tous de la même manière dans la délivrance des visas Schengen. Prenons l'exemple de l'ambassade de Belgique où Sirakata, un jeune Malien arrivé en France en 2012, a obtenu un visa Schengen belge. Il m'a dit « On est parti à l'ambassade de Belgique. Bon, on a bien parlé. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais on a bien parlé pour que je trouve le visa, pour venir ici. J'ai fait 6 mois à Bamako avant d'obtenir un visa. » Alors, il y a en quelque sorte ceux qui parlent bien, comme dans un jeu à palabres, où ils finissent par trouver le visa et non l'obtenir, tel une chasse au trésor. Et c'est comme une rhétorique où il faut savoir monter quelque part patte blanche, dire qu'on sera différent des autres immigrés. Et il y a ceux qui ne rentrent pas dans les ambassades, comme l'a confié Sundiata, un Mauritanien de 27 ans et qui est arrivé en France en 2008. C'est ici qu'intervient la sécurité auxerre, qui signifierait du Wolof le passeur. Comme il me l'a été expliqué, il y a des personnes qui se placent en tant qu'intermédiaires entre les candidats au départ et les ambassades. Il peut s'agir du patronage de riches commerçants ou de personnalités culturelles, artistiques. Les coxers, en tant qu'intermédiaires, prennent le dossier du candidat et effectuent pour lui pour toutes les démarches administratives nécessaires, moyennant un coût de 5 à 6 000 euros. À partir de là, commence un jeu de papier où on cherche le visa, c'est-à-dire qu'on cherche un moyen de trouver un visa via le coxer, et où l'on attend, comme un jeu de loto, qu'un visa sorte à son nom. Ici, on voit qu'il y a quelques manières de jouer avec les frontières physiques, digitales, imaginaires, et que des interstices de jeu sont permis dans cette recherche du visa. La deuxième voie est celle qui serait le pendant pour ceux qui n'ont pas réussi à gagner le visa. Et je reprends une expression d'Anna Ikpian, il me semble, quand elle parle de gagner le visa. Comme Isoko est un jeune Mauritanien, et il avait 23 ans au moment de notre entretien. Il est arrivé deux fois sur le territoire français. Il est arrivé une première fois en 2009 et une seconde fois en 2011. Je l'ai rencontré lors de sa seconde entrée sur le territoire. À la fin de l'année 2004, Kamisuko est parti célibataire pour aller vivre chez sa grand-mère à Nouakchott. Il y est resté environ un an. En 2006, il est parti pour Nodimou. Et si il est parti pour Nodimou, c'est parce qu'il m'a confié que là-bas, il sait qu'il y a du trafic, que là-bas, il y a des maisons pour ceux qui veulent partir en Europe. Dans ces maisons, c'est donc dans ces maisons que se prépare le départ en bateau. Kamisuko a environ payé 1000 euros pour son voyage en bateau. C'est un bateau de pêche qui a mis 3 jours pour atteindre les côtes espagnoles. Une fois que Kamisuko est arrivé en Espagne, à Santa Cruz de Tenerife, il a dû descendre comme tous les autres passagers clandestins du bateau et se livrer à la police. Il a alors été placé dans un centre de rétention pendant 6 mois, mais comme Kamisuko était mineur à son arrivée en Espagne, il n'a pas été retourné en Mauritanie. De plus, vu la situation politique du pays à l'époque, il a pu faire une demande d'asile et est parti à Ponferrada, dans la province du León, dans une maison pour mineurs isolés étrangers. Ensuite, nous avons le cas de Massiru, qui lui est âgé de 28 ans, au moment où on s'est rencontré. Il est malien, originaire d'Haïté dans la région de Caye. Il a quitté Haïté pour Nouakchott en 2007. Pareil, de Nouakchott, il est parti à Nodibou pour trouver une embarcation qui l'emmènerait lui aussi en Europe. Là encore, la place sur le bateau lui a coûté 1000 euros. Cette fois, ce n'était pas un bateau de pêche. Il m'a dit que c'était une petite embarcation à moteur où il était 63 personnes entassées et qu'il y avait même un blessé. À son arrivée en Espagne, comme Kamisuko, Massiru a dû se présenter à la police et donc et partir dans un centre d'internement pour étrangers. Massiru m'a dit qu'il était resté dans cette prison, et c'est là son terme, pendant 40 jours. Mais ce qui lui a permis de rester en Espagne et de ne pas être retourné comme ses compatriotes, c'est le fait d'avoir déposé une demande d'asile en tant que ressortissant mauritanien. C'est donc en se faisant passer pour mauritanien que Massiru a pu rester en Espagne en demandant l'asile, et ensuite se déplacer à l'intérieur des frontières Schengen et venir notamment en France avec par bus. Donc on voit bien que dans ces deux cas, que ce soit pour Kamisuko ou Massiru, à chaque fois il y a des interstices de jeu qui permettent un jeu d'identité de papier. On voit aussi bien que la sécurisation des frontières de l'Union européenne, l'externalisation de sa politique migratoire, ne font en fait finalement que déplacer les itinéraires migratoires et amorcent de nouveaux jeux. Alors, pour conclure, à travers le récit de ces parcours brefs, j'ai voulu témoigner des différentes manières qu'ont les migrants de jouer avec les frontières de l'Union européenne dans l'optique de réaliser leur projet migratoire. Par cette démonstration, j'ai aussi tenu à souligner ce qu'il y a de malgré tout de poreux de ces frontières intelligentes. Et en outre, si les identités de papier influencent bien le cours des parcours migratoires, puisque certaines personnes ressortissantes de pays tiers ne peuvent prétendre à certains visas, elles permettent des jeux d'identité de papier comme celui-ci. Ces identités apprennent également à se faufiler dans les interstices de jeux qui sont laissés. Et dans tout cet état de choses, la sécurisation des frontières européennes détourne finalement les parcours migratoires, les diversifie, annihile les espoirs de retour, mais ne tarit pas pour autant les flux migratoires à destination de l'Europe. Toutefois, il ne faudrait pas être naïf quant à l'existence de cet interstice de jeu, car, et je reprendrai Erving Goffman, qui me parlait de toute autre chose, mais qui disait « La tolérance fait presque partie toujours d'un marché ». Et j'aimerais qu'on réfléchisse à cette dernière phrase en se demandant si, alors déjà de voir le lien entre tolérance et marché, et de aussi comprendre que cette tolérance est en fait la création de situations qui demandent à ce qu'on ait une tolérance, et de s'interroger sur ce qu'est ce marché. Est-ce qu'il s'agit d'un marché politique, économique, etc. Je vous remercie.
Chaîne. Donc, je m'appelle Marilyn Poulain, je suis responsable d'immigration à la CGT Paris. Et donc, je suis depuis de nombreuses années au niveau de Paris les luttes de travailleurs sans papier. Je connais nombre d'entre vous qui sont ici dans cette salle. Et d'ailleurs, je tiens à remercier bon nombre de personnes de votre section qui, depuis les luttes de 2009, ont suivi, accompagné les travailleurs sans papier depuis notamment l'occupation du FAFSA Rue du Regard. Et je tenais à vous remercier, d'ailleurs, rendre un hommage à Jacques Loarec, dont j'ai appris le décès, et qui était très investi aussi lors des accompagnements et du travail de soutien des travailleurs sans papier. Donc moi, j'aborderai la question plus, on va dire, depuis l'angle syndical, on va dire. Et en effet, comme l'a dit Emeline, ou comme l'a dit Claude, en effet, aujourd'hui, ce dont on peut se rendre compte, c'est que la frontière, en effet, physique, elle est existante. Mais elle est quand même, on peut s'en rendre compte, une forme de leurre aujourd'hui, puisque un migrant, en tout cas, prendra des risques et, de toute façon, risque, au péril de sa vie, franchira cette frontière. Et c'est bien à l'heure de penser que d'ériger des barbelés, ça évitera les migrations. Les migrations auront toujours lieu. Et moi, ce dont je parlerai aujourd'hui, c'est bien de ce que j'appelle la frontière administrative. Parce qu'aujourd'hui, dans le pays, il existe une véritable frontière administrative, et c'est celle du titre de séjour. Et celle du titre de séjour, elle permet en effet de créer dans le pays où nous sommes une véritable réserve, elle crée véritablement une réserve de travailleurs sans droit. Puisqu'en effet, les personnes qui sont dépourvues de ce type de séjour se retrouvent dans des situations où ils sont convéables, flexibles, comme on a pu s'en rendre compte dans nombre de conflits de travailleurs sans papier, confrontés réellement à des situations très difficiles où ils ont l'impression d'être dépourvus de droits. Et donc, ce que je souhaiterais pointer, c'est réellement la responsabilité de l'État dans cette situation. C'est-à-dire qu'on a à la fois, comme on a pu le voir l'année dernière dans le conflit des coiffeuses du 57 boulevard Strasbourg, que certains d'entre vous ont suivi des situations de déréglementation du droit du travail qui sont très fortes, avec pouvant aller jusqu'à la traite des êtres humains, des situations, on va dire, d'esclavage, où des salariés sont confrontés à des salaires très bas, de 200 à 400 euros par mois, payés au lance-pierre, avec une véritable situation de menace, puisque l'employeur qui menace de dénoncer à la police ses salariés, donc des situations de violence, de tension, donc des situations extrêmes de déréglementation. Mais donc là, on est, on va dire, une situation où les employeurs sont responsables et nous-mêmes, en tant que syndicalistes, nous allons, on va dire, accompagner ces salariés dans leur combat pour leurs droits, pour le respect de leurs droits, pour leur dignité. Mais à la fois, on va être confrontés nous-mêmes à une véritable responsabilité de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on se retrouve face à un gouvernement qui, dans ses circulaires, dans ses textes de loi, contraint des salariés, des personnes que nous, en tout cas syndicalement, on considère comme des salariés comme les autres, à être dans la clandestinité pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire 5 ans, voire 3 ans, avec des critères très spécifiques où on leur demande des fiches de paye pour pouvoir être régularisés, alors qu'eux-mêmes sont sans papier, donc d'où une véritable contradiction pour ces personnes qui se disent « mais comment on fait quand on est sans papier pour avoir des fiches de paye ?» Donc avec des stratégies, comme on peut le voir, qui vont être différentes. Certains travaillant avec le papier d'un cousin, d'un tiers, soit certains travaillant avec des fausses cartes de séjour. Mais en effet, c'est l'État qui crée lui-même la fraude, puisqu'il lui-même demande à ses salariés de produire des fiches de paye. Et quand on n'a pas de type de séjour, c'est très compliqué d'en obtenir. Donc on est bien obligé à un moment ou à un autre, on se retrouve face à un employeur qui lui-même va vous dire, comme on l'est aujourd'hui dans le cas d'un conflit qui a commencé le 1er octobre dans une pizzeria au 46 rue Bavien, pas loin d'ici, avec des patronnes qui vont nous dire même, qui vont dire aux salariés, puisqu'elle emploie 5 salariés sans papier dans son établissement, donc tous les salariés qui font tourner son établissement, hein, du cuisinier au plongeur, au pizzaiolo, elle va leur dire, ben, vous m'amenez une fausse carte d'identité française. Pourquoi fausse carte d'identité française, vous me direz-vous? Parce qu'en effet, la fausse carte d'identité française, c'est un papier que l'employeur n'est pas tenu de vérifier auprès de la préfecture. Il est tenu, depuis 2007, de vérifier les cartes de séjour étrangères auprès de la préfecture pour voir si cette carte de séjour est réelle ou pas. Mais là, elle leur demande clairement, pour contourner la loi, de leur amener des fausses cartes d'identité française pour se couvrir elles-mêmes en cas de contrôle de l'inspection du travail, et à la fois mettant en place un véritable système où elles fraudent elles-mêmes l'État, puisqu'elles ne déclarent pas ses salariés, elles les déclarent très peu, 17 heures par mois, 20 heures par mois, pour se couvrir justement en cas de contrôle en disant « moi, pas de souci, je paye mes cotisations à l'URSSAF », mais justement créant réellement un préjudice, tant vis-à-vis de ses salariés que vis-à-vis de l'État. Et donc on a ces situations qui se perpétuent sans cesse. Nous-mêmes, en tant que syndicats, en effet, ce qu'on réclame, c'est réellement une égalité des droits entre ces salariés, donc entre tous les salariés, puisque c'est une question, comme l'a dit souvent Emmanuel, de lutte contre la délocalisation sur place, clairement, puisqu'on a des secteurs d'activité entiers qui ne peuvent pas être délocalisés, donc où on observe une véritable délocalisation ici en France, que ce soit le BTP, le nettoyage, la restauration, le textile, nombreux secteurs où en effet un grand nombre de salariés sans papier sont aujourd'hui, en effet, dans lesquels ils sont salariés, soit avec des tiges de paie, comme on disait, soit au noir, quoi, en tout cas contraints au travail dissimulé pour la majorité d'entre eux. Et donc, pour nous, aujourd'hui, il est important de maintenir ces combats, à la fois, on va dire, avec les salariés, puisque c'est eux-mêmes qui se mettent en lutte, c'est eux-mêmes qui s'organisent dans une idée de, on va dire, de défense de leurs droits, mais aussi nous en tant que syndicat dans l'idée que justement la question de la solidarité entre travailleurs est un levier fondamental aussi pour faire bouger les choses, parce qu'on est sur une problématique qui nous concerne tous en tant que salariés, la question du dumping social, la question de nos droits à tous. Elle est liée aux droits de ces salariés-là, qui sont les plus précaires, qui sont les plus contraints au travail, on va dire, forcé dans certains cas. Et donc, nos droits sont liés, et il est nécessaire aujourd'hui que les politiques migratoires changent, et en effet, qu'on soit, si c'est utopiste, la question de la liberté de circulation est plus que jamais d'actualité. On l'a vu dans les nombreux débats qui ont été portés suite aux différents décès dans la Méditerranée, mais qui existent depuis bien des décennies, malheureusement. Mais bon, cette question a été remise en avant, et je pense qu'il est nécessaire de se reposer cette question, et de se poser la question aussi, pas qu'en termes de liberté de circulation, parce qu'on peut parler liberté de circulation, mais on voit très bien qu'au niveau européen, la question seule de la liberté de circulation ne résout rien, puisqu'on a les salariés qui sont détachés au niveau européen, qui eux-mêmes ont la liberté de circuler, mais sont, on va dire, sous un régime particulier de droit du travail de leur pays d'origine. Donc il y a nécessité d'avoir une réelle égalité des droits et une réelle égalité de traitement entre salariés, avec, on va dire, l'application du droit du travail français dans notre pays pour chacun des salariés qui sont ici. Et comme je pense à la phrase qui clôturait le film des cinéastes qui est sorti l'année dernière sur les salariés du 57 boulevard Strasbourg, un état de droit se doit de protéger l'ensemble des salariés sur son territoire. Et je pense que voilà, cette phrase est juste, et que c'est par ce biais-là qu'on peut arriver vraiment à faire bouger les choses. Voilà. Je vais être courte.
Bon, moi, on m'a demandé d'être le premier intervenant. Alors, intervenant, ça veut dire que je vais m'accrocher à ces deux exposés et tâcher d'en tirer quelque chose qui me soit propre, d'une certaine façon. Et ce qui m'est propre, moi, c'est le langage de la guerre. C'est-à-dire tout ce qui est à l'origine de ce déplacement et comment ce déplacement, qui est un déplacement de guerre, aboutit à, finalement, quelque chose comme de la création d'esclavage. Alors on est dans une espèce de contradiction dans les mots. La liberté de circulation et la liberté d'entreprise, à partir d'une guerre, arrivent à un esclavage. On pourrait appeler ça des prisonniers de guerre, par exemple. N'est-ce pas? Puisqu'on est dans une situation où ils sont soumis à une volonté patronale qui est incontrôlée. Et c'est un peu ce qui arrive quand un prisonnier de guerre est prisonnier de guerre d'un patron qui s'appelle l'État et qui n'est pas contrôlé autre chose que par le besoin du travail qu'il peut avoir avec des prisonniers de guerre. C'est-à-dire, si le prisonnier de guerre est un vigneron, par exemple, on va l'utiliser comme vigneron en travail forcé. C'était le cas des prisonniers de guerre, d'ailleurs en Bourgogne, n'est-ce pas ? Il y avait des prisons qui s'appelaient prison des Allemands, ça voulait dire que les prisonniers allemands venaient faire le boulot de la cueillette du raisin, pendant que ce temps-là, eh bien, les prisonniers français en Allemagne étaient aussi accueillis, ils faisaient leur boulot. Ça, c'était encore relativement, disons, cohérent, parce qu'on arrivait à faire travailler les gens sur ce qu'ils connaissaient, ce qui n'est pas le cas de l'esclavage actuel. Alors, ce problème-là nous renvoie, à mon avis, à la définition du phénomène actuel de migration globale, très extrêmement volumineuse. On est obligé de se dire qu'il faut aborder le problème comme un problème de sociologie transnationale, ce qui n'existe pas, bien sûr, puisque c'est comme la démocratie, ça ne peut pas être transnational. Or, la migration elle-même n'est migration que si on franchit les frontières, donc il y a quelque chose qui est forcément un phénomène national. Alors, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut faire de la causalité de la guerre pour rendre plus visibles les contradictions et aussi les combattre? D'abord, je pense qu'il faut, par exemple, il y a une série de choses que je pense qu'il faut remarquer à chaque instant. À savoir que, finalement, tous les migrants sont à la fois des migrants économiques et des migrants politiques. C'est-à-dire que les migrants politiques vont chercher du boulot quand ils seront arrivés. Et puis les migrants économiques, ils procèdent aussi d'un désir d'échapper aux contraintes de la guerre. C'est-à-dire que, dans un sens, ils sont des migrants politiques. On peut appeler politique une guerre, sauf si on déclare que, évidemment, la guerre n'est pas la continuation, la politique n'est pas la continuation d'autres moyens. Et donc, on a cette situation bizarre, à savoir que les guerres ne sont plus considérées comme la continuation de politique par des moyens, et par conséquent, les victimes de la guerre non plus ne sont pas considérées comme des victimes de la guerre. Le problème qu'on a, c'est que dans ces guerres, il y a plusieurs espèces de guerres. Alors c'est certain que c'est là-dessus que repose en grande partie la distinction entre les migrants économiques et les migrants politiques. Quand il y a un État qui fonctionne encore à peu près, ou prétend fonctionner, en tout cas du point de vue de l'ONU, comme la Syrie par exemple, bon, alors on se dit c'est des migrants politiques. Parce que, mais quand on est un Soudanais qui vit dans une zone de troubles et de massacres, mais qu'on ne peut pas appeler vraiment une guerre, parce que ce n'est pas une guerre internationale, c'est une de ces guerres qui prolifèrent d'ailleurs, qui sont des guerres entre communautés, religions, etc., sécheresse, des guerres de sécheresse, bon, tout ça fait qu'on n'appelle pas ça vraiment une guerre. Alors, on appelle ça des conditions économiques insupportables, et donc tu cherches simplement de trouver un boulot, c'est ça un migrant économique. Alors, je pense qu'il faut insister sur le fait que ça, c'est une incitation mentale, parce que bien sûr, il faudrait pouvoir faire approuver ça par le pouvoir d'État en France. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre les migrants qui fuient des guerres informes et les migrants qui fuient des guerres en forme. Ce problème-là, en plus, il nous oblige à regarder de très près les conditions des guerres en question. C'est-à-dire que comme l'a fait remarquer la première, il y en a beaucoup qui sont en train d'essayer de fuir en rejoignant leur famille, par exemple. C'est un des prétextes, ou des raisons, même des raisons, en tout cas fausses ou vraies, qui font que les gens s'entassent à Calais parce qu'ils disent qu'ils ont un oncle à Londres ou à Liverpool. Et donc il y a cette réalité, parce que c'est quand même aussi une réalité d'une migration qui est essentiellement déjà globalisé par ce que représente l'émigration plus ou moins normale qui ont lieu dans le cadre de l'économie globalisée et des méfaits que produit un peu partout la délocalisation des entreprises. Alors, cette chose-là, on peut le marquer, elle est plus nette, si vous voulez, dans le cas des migrations des gens plutôt misérables ou assez incultes qui arrivent pour se débrouiller, mais ils ont toujours le souci de nourrir leur famille qui est restée en arrière ou de rejoindre la famille qui est déjà en Angleterre ou en Allemagne, etc. etc. Donc, ces migrations-là, il faut les reporter au champ de bataille de départ. Naturellement, les Syriens qui sont en partie, en tout cas, des gens qui ont un certain niveau de culturel, c'est plus facile de considérer qu'en effet, ils ne sont pas des migrants économiques, puisque, justement, ils n'ont pas de mal, en quelque sorte, à justifier de leurs compétences pour obtenir du travail. Bon. Ce n'est pas le cas des paysans soudanais avec qui j'ai bavardé à Austerlitz de temps en temps, n'est-ce pas, qui eux sont des migrants qui fuient une situation de massacre, mais ils n'hésitent pas à prendre 3 ans pour arriver jusqu'en France en faisant des petits boulots entre temps, etc. Alors ce n'est pas du tout la même chose que les Syriens, mais c'est parce que la société syrienne et la guerre syrienne n'est pas la même chose que la société soudanaise et la guerre soudanaise. On peut parler aussi de la guerre d'Érythrée ou des choses comme ça. Quand un État est complètement décomposé, effectivement, la fuite a l'air d'être uniquement économique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est la recherche des responsabilités. Alors, la recherche de responsabilité, elle peut aller jusqu'à la recherche de responsabilité des guerres qui ont lieu. C'est-à-dire que si on voulait mettre en place une criminalisation des actes financiers, on pourrait se dire que les guerres en question sont le résultat de chocs entre les grandes institutions financières, politiques et économiques globales, etc., etc. C'est quoi ça? De quelle manière les guerres éclatent-elles dans ces régions-là? Alors, elles peuvent éclater pour des raisons tout à fait politiques, comme le président Assad, qui représente à lui seul un modèle de barbarie très très spécifique, mais elles peuvent être aussi la conséquence des modes de guerre qui s'imposent. À ce moment-là, on doit examiner, en tant que Ligue des droits de l'homme, à mon avis, les causes de ces guerres et où sont les causes de ces guerres. Or, la guerre devient de plus en plus électronique. La finance aussi. On est dans un système qui s'électronifie. Et cette distance incroyable entre la catastrophe financière et la réalité, et la catastrophe militaire et la réalité, fait que on n'arrive plus à voir exactement quelles sont les causes. Alors moi, je suis en train de faire un travail qui consiste à se dire qu'effectivement, le style des guerres impose le massacre. Hein, c'est assez difficile de comprendre, mais on a maintenant des armes qui peuvent à la fois faire des dégâts, disons, de type massif, des massacres indiscriminés dans la population civile, peut aussi faire des assassinats ciblés sur des responsables politiques, économiques ou sociaux, et tout ceci avec toutes les possibilités d'escalade et de nuances entre les deux, qui sont en vérité un même paquet qui est qu'on peut tuer les gens en masse avec des produits comme le napalm, et aussi en détail avec des drones armés. Donc cette existence-là, n'est-ce pas, du massacre discriminé ou indiscriminé dans tous les champs de bataille actuels, c'est quand même une chose assez nouvelle. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une des causes structurelles de l'horreur des guerres qui ont lieu là et du moteur que représente pour la fuite des gens le caractère abominable des guerres qui ont lieu. Évidemment, quand on avait des bonnes guerres comme ça entre les nations, les prisonniers étaient traités relativement bien et on les échangeait. Enfin, il y avait des relations de commerce de prisonniers qui étaient quand même civilisées, n'est-ce pas, par les conventions de Genève, par exemple. Tout ceci, maintenant, et balayer, non pas juridiquement, mais dans la pratique même de la violence politique, sociale, économique, on n'a plus cette capacité de distinguer clairement les éléments d'une guerre qui sont des violations des droits sociaux ou des droits économiques. Et donc les deux mamelles du droit qui devraient protéger ces gens-là, c'est-à-dire le droit, les droits de l'homme d'une part, et puis le droit humanitaire de l'autre, ce sont deux sources de législation qui quelquefois se contrarient entre elles, étant donné que le modèle qui sert à soutenir les victimes des abus juridiques ne sont pas pris de la même façon en matière juridique et donc politique et en matière économique et donc sociale. Le problème qu'on a, c'est ça aussi. Alors je pense que il y a des éléments, si vous voulez, de la situation actuelle qui ne peuvent pas être décrits ni contrôlés sans faire une anthropologie des guerres actuelles. Et aussi, une anthropologie des guerres actuelles, ça ne peut se faire qu'avec une étude technique des modes de massacre qui existent et qui sont vraiment pas chers d'une certaine façon, à partir du moment où on viole toutes les limitations qui sont imposées, soi-disant, par l'ONU, par la Cour internationale des droits de l'homme, etc. etc. La violation des droits de l'homme est permanente, impossible à contrôler. Elle met en cause, évidemment, des militaires qui font des horreurs, mais en fait, les militaires font des horreurs, pas sur ordre exactement, mais toujours sur un ordre tacite, ce qui a toujours existé, d'ailleurs. La corvée de bois, on sait bien que ce n'est pas une corvée de bois, que c'est une façon d'exécuter les prisonniers. Bon. Alors, mais vous aviez toujours cette chose qui faisait que c'était un délit d'exécuter les prisonniers. Maintenant, on ne sait même pas si on est un prisonnier ou un mort, ça peut dépendre de n'importe quoi. Et la question qui se pose, c'est que les gens qui arrivent des zones de combat et de massacre devraient tous être réceptionnés en quelque sorte comme victimes de violations graves des droits de l'homme et du citoyen et victimes de violations de toute la législation, de tous les accords transnationaux concernant la modération de l'usage de la violence armée. Je m'arrête peut-être. Je m'arrête peut-être, mais enfin, c'est ça mon apport, c'est cette chose-là. C'est-à-dire que à part quand on a bien ce champ de bataille en vue avec ces irresponsables qui sont responsables et qui remontent peut-être jusqu'à Goldman Sachs, enfin, ou le président de Turquie, bien, on peut se dire que la façon dont on traite cette chose-là est une chose éminemment politique, économique, sociale, juridique, qui est en partie un système de violation des droits qui est presque impossible à contrôler parce qu'il n'est pas lui-même, il n'est pas contrôlable sur place parce que la guerre est faite d'un morceau, de plusieurs morceaux de combattants qui sont à la fois irresponsables et complètement insaisissables même parce qu'il y a des variations d'alliances, etc., comme ce qu'on voit en Syrie en ce moment. Donc c'est ce problème-là qui devrait structurer la politique d'accueil et qui ne le fait pas. C'est comme si, effectivement, l'Europe ne veut pas savoir qu'elle est en guerre. Elle est en guerre, c'est pas la façon dont... quand Hollande dit « nous sommes en guerre », c'est pas ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que il y a des attentats. Il veut dire ça. Alors, un attentat, pour lui, c'est un acte de guerre, mais bon, on peut dire aussi qu'un attentat, c'est un attentat. Ce n'est pas forcément un acte de guerre. Mais on baptise, tout étant baptisé terrorisme, tous les combattants et leurs victimes aussi sont des terroristes et des terrorisés en même temps. Alors, naturellement, ils peuvent arriver en France et finalement, c'est en France, ils sont terrorisés par l'appareil d'État, puisqu'ils n'ont plus de situation, etc., etc. Donc il faut mettre en cause aussi la violation par l'appareil d'État de la définition du réfugié et du migrant, ce qui ne tient pas compte du fait qu'il s'enfuit d'une zone de massacre.
La parole est à la salle pour une discussion. Nous avons un bon morceau de temps. Donc,
C'est une petite remarque qui va dans le même sens. Quand on se plaint des attentats en France, on se réjouit de l'augmentation considérable de nos ventes d'armes. Et donc, il y a quand même une corrélation entre qui sont les terroristes. Il faut s'interroger là-dessus. Quand on, comme François Hollande l'a fait, sans nous demander notre accord, engagé 3 guerres depuis son élection, et qu'on se réjouit de l'explosion de ventes d'armes, on peut se demander de quel côté sont les terroristes. Ils sont peut-être de plusieurs côtés à la fois.
J'avais une question concernant, j'aimais bien la délocalisation sur place, je voulais savoir quel est l'intérêt des employeurs à avoir des sans-papiers. L'intérêt, je pense que c'est économique essentiellement, mais j'aimerais bien avoir une explication, parce qu'en même temps, c'est dangereux pour eux, non? Quel est le danger et l'intérêt?
Je pense qu'on répond tout de suite. Il y a un intérêt multiple, soit on a différents types d'employeurs, hein, on ne va pas, catégoriser, en faire qu'un seul. Forcément, quand on a des salariés qui pensent réellement ne pas avoir de droits, puisque c'est le cas des salariés sans papier, souvent quand on discute avec eux, dans un premier temps, là je le vois à chaque fois sur les conflits qu'on a, au début ils nous disent « je ne pensais pas avoir de droits ». Donc c'est vrai que souvent on s'aperçoit qu'il y a des amplitudes horaires qui sont très importante. La crainte de revendiquer, justement, de dire voilà, non, je connais mes droits, j'ai pas le droit de travailler plus. Donc souvent une crainte d'expliquer les choses. Donc forcément les employeurs profitent au niveau de l'amplitude, de la flexibilité. Donc la question du paiement des salaires. Donc comme on a pu le voir l'année dernière avec les coiffeuses du boulevard Strasbourg, où là on avait des patrons qui payaient au lance-pierre, et dès que les salariés se plaignaient ou demandaient de l'argent, ils disaient mais attendez, je vais appeler la police et c'est eux qui vont trancher. Donc forcément le fait d'être sans titre de séjour les plaçait dans une forme de crainte. Il y a la question des droits, on va dire, au niveau hygiène, sécurité, quand on voit les protections sur les chantiers, ce genre de choses. On connaît bon nombre de manœuvres qui faisaient du désamiantage par exemple sans protection. Et on sait que dans le BTP, il y a beaucoup de sous-traitants qui, en effet, font faire aux sans-papiers des boulots qui sont extrêmement durs, extrêmement pénibles. Et donc, les salariés qui connaîtraient leurs droits n'accepteraient pas de les faire. Donc c'est vrai qu'on a c'est ce que je pense réellement, hein, c'est que cette absence de titre de séjour place les personnes dans une vulnérabilité, situation de vulnérabilité totale.
Les salaires moindres. Les salaires moindres aussi, enfin c'est taux horaire.
Les salaires, oui, non, c'est totalement.
Et quel est le risque de l'employeur alors?
Le problème, c'est ce que j'expliquais, c'est que beaucoup trouvent des parades. C'est-à-dire qu'il y a aussi une certaine volonté, on va dire, de l'État. Avec la déréglementation qu'on connaît aujourd'hui, et puis même la déréglementation au niveau des protections, c'est-à-dire que maintenant, si l'employeur prouve qu'il est de bonne foi, c'est-à-dire que si lui estime qu'il ne savait pas que si la personne était sans papier, il peut très bien s'en sortir devant les prud'hommes. Et donc ça, c'est comme je vous disais, la parade de la patronne de la pizzeria qui dit « amène-moi des fausses cartes d'identité française, parce que là, si par exemple la police vient, elle va dire j'ai été trompée, j'ai été flouée, ils m'ont apporté des fausses cartes d'identité françaises, je ne savais pas, je les ai déclarées. Donc elle va dire, c'est ce qu'elle nous dit, hein, c'est ce qui s'est passé le jour de la grève et de l'occupation, elle nous dit ah non, mais moi je ne savais pas, je les déclare, vous pouvez vérifier le temps de travail qu'ils font, c'est-à-dire 17 heures par mois, vous vous rendez compte, 5 salariés qui travaillent 17 heures, 30 heures par mois. C'est ridicule dans une pizzeria, pour animer une pizzeria, quoi. Et donc, elle défend ça. Elle dit, ah non, mais moi, je les déclare. Et donc, concrètement, c'est-à-dire que je pense qu'un des moyens, c'est-à-dire à la fois la lutte, mais aussi le recours à l'inspection du travail, est une des meilleures manières de contrer ces employeurs-là. Mais c'est, voilà, il y a toute une prise de conscience. On sent que les salariés bougent quand même, parce que là, on sent que d'une grève à l'autre, depuis des années, les salariés ont tendance à s'organiser et à vouloir se battre pour leurs droits. C'est ça qui est une chose très importante. Ouais.
Juste un petit point, mais l'employeur a quand même une obligation de sécurité et il ne peut pas mettre en danger la santé de ses salariés, qu'ils aient des papiers ou pas. Et comme vous êtes bien placée, Marilyn, puisque on apprend, il faut apprendre à ses salariés leurs droits parce qu'ils hésitent même quand ils n'ont pas de papiers.
Tout à fait.
Ouais. Il faut se rappeler que l'inspection du travail a des moyens dérisoires pour contrôler l'ensemble des entreprises qu'elle a à sa charge. Chaque inspecteur doit contrôler 2000 ou 3000 entreprises, ce qui fait qu'elles sont contrôlées une fois tous les 5 ans ou 10 ans. Quand un procès-verbal est établi, il est transmis à la direction départementale du travail. C'est à elle de savoir si elle doit donner suite. Et en général, un procès-verbal sur 10 est transmis au procureur de la République.
Qui lui-même ne saisit
la justice de siège qu'une fois sur 5 ou une fois sur 6. Ce qui fait qu'en réalité, les condamnations sont extrêmement rares, extrêmement rares.
C'est des condamnations qui sont extrêmement faibles. Pour tout vous dire, par exemple, on s'est attaqué avec un gros morceau avec Château d'Eau. On a quand même un véritable réseau, un fonctionnement mafieux à l'œuvre. On a pu se rendre compte lors des procès qu'il y a eu, pour des employeurs récidivistes en cas de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers sans titre, non-respect des règles de CHSTT, des récidivistes qui avaient 4 mois avec sursis, avec quelques amendes, et sachant qu'il y a un véritable système avec des gérants de panne, ils n'étaient pas solvables, et en fin de compte, les gars récidivent, et puis ils ne sont pas forcément... Ça n'a pas l'air de les choquer, puisque la personne dont on parle, qui était condamnée sur 5 ans de boulevard Strasbourg, le premier conflit, il est toujours sur le boulevard, alors qu'il vient d'être condamné à 8 mois ferme, sur le 50 boulevard Strasbourg, sans mandat dépôt. Donc il est là, devant la pharmacie boulevard Strasbourg, vous pourrez le voir. Il est toujours là en train de... Donc il y a... ce qu'il risque, c'est quand même extrêmement faible, concrètement. L'exploitation de salariés sans papier, aujourd'hui, n'est pas fortement réprimée par l'État, puisqu'elle permet de maintenir un salariat dans une situation de vulnérabilité, ce qui arrange beaucoup, grand nombre d'employeurs. Puisque c'est une question de dumping social et de baisser les conditions de travail de chacun d'entre nous.
Et concurrence entre nous.
Voilà, exactement.
Oui.
Oui. Moi, ça fait plus d'un an que j'essaye de harceler mes collègues économistes pour qu'il y ait une réflexion économique en liaison avec les personnes qui s'intéressent aux migrations, pour qu'il y ait un véritable travail sur ce qu'est au niveau... Comment imaginer, comment peut-on travailler à ce que serait une protection sociale à frontières ouvertes, puisque actuellement la protection sociale est réfléchie à frontières fermées. C'est-à-dire qu'on pense au circuit économique de la protection sociale, en tout cas tel que l'a établi le Conseil national de la résistance, dans le cadre de la nation. Donc il faudrait, à mon avis, essayer de réfléchir à un modèle de protection sociale où la circulation est possible. On le voit dans le cas des Chibani, par exemple, on oblige à rester là puisqu'ils touchent une retraite, on les empêche de retourner au pays. Donc ça veut dire qu'une retraite de quelqu'un doit servir au pays, la retraite d'un travailleur doit être réinjectée dans le circuit économique national. Donc ce que je voudrais, c'est que, Antoine Malle dit qu'il ne faut pas réfléchir à combien ça coûte. Or, ce que je constate, c'est que les réflexions sur les migrations actuellement fonctionnent sur un mode défensif. C'est-à-dire, on dit ça ne coûte pas, ça rapporte, etc. Le problème, il n'est pas là. Il est, à mon avis...
C'est comme celui-là qui... Il faut l'enlever. On passera celui-là.
Le problème de moi, c'est de réfléchir à... Alors, effectivement, on peut dire qu'il faut sortir du capitalisme. Certainement. Je pense que c'est effectivement ce qu'il faudrait faire. Mais au-delà de ça, il y a quand même eu une réflexion au moment du Conseil national de la résistance où on ne sortait pas du capitalisme mais on mettait un système de protection sociale où il y avait un circuit. Et c'est la réflexion de Bernard Friot sur la production de valeur. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de rencontre entre cette réflexion-là sur la production de valeur et la libre circulation. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est pour moi un problème de fond, parce que c'est ce qui permet d'opposer les travailleurs entre eux et de créer la lutte des pauvres entre eux.
De ce point de vue-là, j'ajouterais encore que ce capitalisme complètement dérégulé a pour effet, et c'est ce que dénonce notamment Piketty, d'augmenter la différence entre les plus riches et les plus pauvres, aussi bien à l'intérieur du pays qu'entre les pays eux-mêmes, créant des déséquilibres dans le commerce international encore beaucoup plus forts qu'ils n'étaient, je pense, dans les années 40 ou 50, créant les situations qui provoquent la migration.
Moi, je pense qu'il y a un mot très important, c'est le mot mafia. Parce que quand vous parlez de ces relations mafieuses, enfin, en réalité, les relations mafieuses, elles sont micro, mais elles sont aussi macro. Si vous regardez ce qui se passe dans le système financier, c'est des mafias qui sont très honorables, etc. De temps en temps, il y a un type qui tombe, mais en gros, la morale du néolibéralisme, c'est une morale mafieuse parce que, justement, on ne met en face de la liberté des entreprises que des règlements mafieux qui sont des règlements dans lesquels la violence sociale ou la violence, tout simplement, s'impose aux individus comme si c'était des contrats. C'était un contrat mafieux, ça existe. C'est-à-dire que ce sont des contrats mafieux. Alors, c'est intéressant d'avoir lâché ce mot, parce que ça éclaire une partie du style global du jeu socio-économique. Et effectivement, les mafias n'ont pas de frontières maintenant. Autrefois, les mafias, c'était quelque chose de sympathique. On envoyait du fric à sa vieille maman dans le fond de la Corse, disons. Et maintenant, c'est complètement différent. Alors, le système mafieux est devenu transnational et il a des relais qui sont invisibles.
Mireille, tu avais demandé la parole.
Oui, Marilyn a insisté sur la responsabilité de l'État concernant les sans-papiers. Mais en fait, on observe que pour ceux qui ont un titre de séjour aujourd'hui, il y a un débat sur intérim, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée. Puisque dans le projet de loi qui est en cours de débat au Sénat et qui va se terminer bientôt, on a assisté à ce débat où finalement ceux qui ont des contrats à durée déterminée vont avoir moins de droits qu'avant, en tout cas pour ceux qui ont des CDD plus de 12 mois. Donc je voudrais que Marilyn développe et aussi la question de l'intérim, qui est quand même très présente dans le travail des étrangers.
Ben, c'est clair que le projet de loi actuel, clairement, on va dire, interdit la précarité des salariés étrangers. C'est-à-dire on est sur une véritable forme de discrimination, puisqu'en effet, ne pourront prétendre à un titre de séjour salarié que les personnes qui détiennent un CDI. Donc c'est quand même une minorité quand on connaît la situation de l'emploi aujourd'hui et quand on connaît aussi les lois actuelles, on va dire, en termes de droit du travail, qui sont que ce soit les lois Macron, les lois Rebsamen, quoi. On est quand même dans une véritable... Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on interdit la précarité aux salariés étrangers, donc c'est-à-dire les gens, comme tu dis, qui auront des cartes, qui auront des CD, qui seront en CDD ou en intérim, ne pourront prétendre qu'à des cartes travailleurs temporaires, qui sont des cartes où figure le nom de l'entreprise qui les embauche, et en effet, ce qui signifie un salariat jetable. Donc, c'est-à-dire les salariés, une fois leur contrat de travail terminé, se prendront une OQTF au final, une obligation de quitter le territoire. Donc ça veut dire clairement qu'on est sur une vision très capitaliste, en effet, du salariat jetable, du salariat qu'on peut, renvoyer au pays, on sait qu'il ne sera pas renvoyé au pays, il sera renvoyé dans la clandestinité pour pouvoir être à nouveau encore plus exploité. Sachant que, comme tu le dis, Mylène, l'intérim est une proportion très importante du salariat des sans-papiers, puisque on va dire que le BTP, qui est un secteur extrêmement touché, on va dire, fonctionne en grande majorité sur l'emploi d'intérimaires sans-papiers, notamment sur les postes de manœuvre. Qui est le poste le moins qualifié, ou sur des postes comme coffreur-boiseur, ou des postes un peu plus chalumistes. Ça fait rire à la préfecture quand je parlais de ça, mais parce que c'est des postes qui sont peu connus par le grand public, mais c'est des postes qui sont très occupés par les salariés sans papier. Et donc, en effet, ces salariés-là ne pourront plus prétendre à une forme de sécurité. Et encore, on sait très bien, l'une comme l'autre, que la carte de séjour salarié d'un an est déjà une carte très précaire. Puisqu'en effet, si on change d'employeur ou si on passe à temps partiel, on risque de perdre sa carte de séjour. Donc il y a une précarisation et une précarité des salariés étrangers, on va dire, en France, qui est très forte. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Code du travail est un... On ne peut pas dire, on demande juste l'application du Code du travail. Le Code du travail, aujourd'hui, est discriminant. Il y a une vraie discrimination pour les salariés étrangers. Il y a un livre spécial pour les étrangers dans le Code du travail qui instaure des droits qui sont différents des salariés français. La préférence nationale en France, elle a déjà lieu. L'opposabilité de la situation de l'emploi, les listes de métiers réservées aux ressortissants des pays européens et les listes de métiers pour les ressortissants des pays tiers, elles existent. Et il y a une discrimination déjà à l'œuvre, clairement. Voilà ce que je dirais.
André ?
Oui. Oui, bon, c'est une question pour Aline et pour Aline également. Je voudrais savoir si, dans leur expérience récente, ils ont l'impression que le changement d'attitude à l'égard des demandeurs d'asile politique récemment, qui a un peu provoqué une révolution inégale, je veux dire, mais dans l'attitude des gouvernements européens, et qui les a amenés, c'est le cas de la France, à établir une distinction, une frontière très stricte entre le migrant politique et le migrant économique, le premier étant plus ou moins plus facilement accepté qu'avant, le second étant plus rigoureusement contrôlé, refusé qu'avant. Est-ce que ça, d'abord, est-ce que ça a eu un effet sur le... Parce qu'il faut bien dire que les sans-papiers vivent de la relative tolérance, on l'a vu, c'est expliqué, de l'administration qui rend service à tout un secteur, qui permet de les sous-payer, etc. Mais est-ce que, de ce point de vue-là, on sent déjà un changement? Il est annoncé officiellement, parce que sans le gouvernement, pour apaiser l'opinion, on va dire qu'on va être plus accueillant pour les politiques, mais plus strict pour les économies. Et est-ce que les sans-papiers eux-mêmes, avec qui vous êtes en contact, sentent quelque chose, craignent quelque chose? Est-ce qu'ils sentent qu'il y a un changement dans le statut?
Les sans-papiers, clairement, le sentent. Ils sont... D'ailleurs, il y a eu des manifs là où certains ont affiché des banderoles « Il n'y a pas des bons ou des mauvais migrants ». Donc, et c'est une réalité qu'on constate. Ils en sont tous parfaitement conscients. Et à la préfecture de police, je peux vous dire qu'ils sont tout à fait conscients aussi. Ils nous l'ont dit l'autre jour qu'ils avaient des instructions bien amicales pour leur dire d'insister sur la lutte contre l'immigration irrégulière et en effet de bien accueillir ce qu'on appelle en effet les réfugiés. Mais là, j'insisterai sur ce que tu disais, Claude, c'est la question à un moment aussi de savoir de quoi on parle. Réfugiés, quand on dit le terme réfugié aujourd'hui, pour certains d'entre nous, ça a été une manière de dire oui, c'est des gens qui sont réfugiés politiques. Moi, personnellement, c'est un terme qui pose problème. Pourquoi ? Parce que le terme réfugié correspond à une réalité juridique, c'est-à-dire les personnes dont la demande d'asile a été acceptée. Et pour l'État, c'est ça, réfugié. Donc ça veut dire qu'on sait très bien pour nous que ceux que nous, on peut appeler réfugiés par moment, ne sont pour les dirigeants de ce pays aussi une grande partie de migrants qui se disent réfugiés mais qui ne le sont pas, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui il y a 18% des demandes d'asile qui vont être prises en compte. Et on sait très bien, quand on le voit sur le conflit des coiffeuses, j'ai trouvé que c'est... Moi, c'était un conflit qui m'a marqué. Pourquoi ? Parce que j'en étais confrontée avec des femmes qui, pour beaucoup, étaient demandeuses d'asile quand elles ont été embauchées. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un vrai problème au niveau de la demande d'asile et du droit de travail. Parce que c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'une personne, quand on connaît l'accueil aujourd'hui des demandeurs d'asile, on le voit avec les problématiques d'hébergement que les gens rencontrent. Beaucoup n'ont pas d'hébergement et donc sont contraints de vivre avec 310 euros par mois. À un moment, ces personnes sont aussi confrontées au marché du travail. Elles ont l'interdiction de travailler, mais elles sont confrontées à ces marchés-là. Et donc souvent, elles se retrouvent dans des situations, comme on l'a vu avec les coiffeuses qui venaient du Nigeria, ou en effet, ou d'autres pays qui ne sont pas forcément considérés comme des pays, on va dire, où il y a un droit d'asile qui va être reconnu, comme la Côte d'Ivoire, ou des pays comme ça. Et en effet, elles ont des parcours de demandeuses d'asile. Moi, je pense que c'est des réfugiés politiques, en effet, au sens... Mais elles ne le sont pas, elles ne sont pas reconnues par l'État. Et en effet, je pense qu'il y a des véritables problèmes qui sont créés. C'est-à-dire que soit on parle, nous-mêmes, on dit, il y a des réfugiés, c'est-à-dire des réfugiés politiques, économiques, un peu comme le disait Alain tout à l'heure. C'est-à-dire que tous sont liés. Il y a toujours une raison politique derrière cette fuite, on va dire. Mais je pense que le terme migrant est un terme plus générique, personnellement, qu'on emploie depuis des années, qui, je pense, correspond plus. Mais de la part de l'État, il y a une volonté de scinder les choses. Et les choses ont été clairement dites en préfecture de police. Quand on a évoqué des contrôles à Château d'Eau, à un moment, on leur a dit, mais quand vous faites des contrôles, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas lutter contre la traite, on va dire, si vous mettez les salariés en rétention administrative. Les salariés doivent témoigner. Ils doivent témoigner de leurs conditions de travail. Donc vous ne devez pas les mettre en rétention. Vous dites, ben non, 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 on a des instructions du ministère. On est obligé de les mettre en rétention. Donc vous imaginez, vous parlez à la fois de... On a des personnes qui contrôlent des patrons, qui vont convoquer quelques semaines après, et les salariés sont en rétention. Donc ça veut dire, eux, comment se sentent-ils? Comment peuvent-ils se sentir victimes de cette situation? Ils sont plutôt victimes de la répression de l'État. Et donc ils se retrouvent en rétention et prêts à être expulsés. Donc ils ne se sentent pas en confiance pour témoigner de leurs conditions de travail. Donc il y a un vrai paradoxe.
Non. Non. Moi, j'ai beaucoup parlé de ça.
C'était une question très très courte. Oui. Est-ce que vous auriez parlé de la même façon maintenant? Parce que moi, dans ce que vous avez très bien décrit, j'ai reconnu par exemple les Maliens à Montreuil, du foyer Rouge Brune. J'ai vraiment bien reconnu. Je trouve ça très juste, mais j'ai l'impression que c'est une situation un peu tombé en désuétude, donc sauf voilà, quand c'est un peu organisé entre le village et le foyer, comme par exemple à Montreuil. Mais est-ce que maintenant vous feriez la même chose, la même démarche, si vous démarriez la recherche maintenant?
Oui, parce que, alors du coup, c'est pas une grande partie de ma thèse, les parcours et les motifs migratoires, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'effectivement, on peut rattacher ces migrations aux années 60, dans la mesure où le vivant foyer, où je trouve que le foyer, même s'il y a beaucoup de travaux qui ont été dessus, reste quand même ce logement qui fabrique des travailleurs migrants. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup aussi qui ne se sentent pas forcément libres de faire ce qu'ils veulent, de s'habiller comme ils veulent, et que au foyer aussi, alors, je pense que je suis très claire, il va y avoir aussi beaucoup de stigmatisation par rapport à ceux qui n'ont pas de papier, par rapport à ceux qui n'ont pas d'emploi. Ensuite, ce que je veux aussi dans ma thèse, c'est proposer ces différents motifs qui ne sont pas du tout contradictoires. C'est autant on vient, parce qu'on est quand même toujours, pour moi, investi de cette mission mandatée pour la reproduction du groupe, et qu'en même temps, c'est aussi totalement un prétexte pour sortir du pays, voir autre chose et vivre sa vie de jeune, etc. etc. Et pour moi, enfin, alors je sais que oui, effectivement, dans le champ des migrations, les migrations d'Afrique subsaharienne ont été beaucoup étudiées et qu'effectivement, je reprends quelque chose qui apparaît obsolète. Et pour moi, ça ne l'est pas.
C'est pas ce que j'ai dit, hein. Oui. Les choses ont changé.
Mais alors, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de montrer à quel point ces choses changent et qu'en même temps que la vision, on va dire, dans l'accueil qui leur est fait en France, ne change pas. Et ce que j'essaie aussi d'opposer, c'est des mondes postcoloniaux, des mondes globalisés ou avec des jeunes qui veulent vraiment juste voir un peu du pays, voir du monde, etc. Et comment on les enferme dans une vision assez, du coup, réificatrice.
Merci. voulais juste rajouter que c'est vraiment loin d'être désuet, parce que nous, quand même, on est confrontés à une population de travailleurs sans papier. La majorité de travailleurs sans papier qu'on rencontre sont des personnes de l'Afrique subsaharienne. Les migrants maliens, mauritaniens, mauritaniens, sénégalais sont une grande partie. Aujourd'hui, en ce moment, il y a une mobilisation de travailleurs sans papier dans les Yvelines qui a été très importante dans l'intérim. C'est des travailleurs sénégalais, par exemple, majoritairement. Et c'est une population qui continue à être en France, qui continue à s'organiser dans les foyers de travailleurs migrants. Et les luttes de 2009, comme celles d'aujourd'hui, ont été en grande partie organisées dans ces foyers. Là, c'est les foyers des Mureaux, les foyers des Yvelines. Et c'est des foyers où il y a toujours, en effet, une population qui s'organise. Et bon, alors, c'est différent de la population, comme tu dis, dont on parle aujourd'hui.
Voilà.
Mais ça continue, qui est toujours là, qui est toujours aussi soumis à ces problématiques, qui est toujours soumis aux problématiques de racisme aussi, problématiques qu'on rencontre notamment dans la restauration. Par exemple, si on prend le milieu de la restauration aujourd'hui à Paris, beaucoup de plongeurs sont d'origine subsaharienne. C'est énorme, vous rendez pas... Non, avec Emine, le nombre de personnes, de plongeurs qu'on rencontre aujourd'hui à Paris, qui travaillent comme plongeurs dans les restaurants, dans les plus prestigieux, chez Père Gagnère, chez le nombre de plongeurs, je veux dire, de tous les restaurants qu'on régularise, c'est énorme. Vous vous rendriez pas compte, quoi. Mais c'est, je veux dire, on a... Parce que, par exemple, la population sri-lankaise, c'est pas une population qui sort de l'ombre. Quelques-uns commencent, la population bangladaise. Bon, on en a quelques-uns qui viennent nous voir dans les permanences, mais la population subsaharienne est plus habituée. Mais c'est fou. Je pense que c'est assez hallucinant de se le dire, mais dans beaucoup de restaurants, il y a un plongeur subsaharien, quoi.
Comment ils trouvent du travail dans des agences ou bon?
Ah bon, les patrons savent très bien, hein. Ils savent très bien s'organiser, hein. C'est par le bouche à oreille que... Mais les noms les plus prestigieux, hein, je peux vous dire qu'ils allaient dans des restaurants très à la mode à Paris en ce moment.
Si nous sommes ici, c'est que nous sommes sensibles à la situation des migrants et des réfugiés. Mais j'aimerais aller au-delà de l'indignation que cette situation soulève en nous. Et moi, je suis à la recherche d'une réflexion sur qu'est-ce qui pourrait faire. Cette crise que l'on vit aujourd'hui est une crise qui va durer très très longtemps. Et on a besoin de réfléchir sur comment créer un monde où ces gens n'auraient pas besoin de quitter leur pays. Il faut travailler sur les causes. Il faut travailler sur pourquoi ces gens... Parce qu'ils ne viennent pas chez nous par plaisir, hein, on est mieux, on est toujours mieux dans son pays. Et donc, ça nécessite tout un projet politique comment faire pour que la pression, pour que ces gens ne soient pas obligés de venir chez nous. Et j'ai une question plus précise. Que pour notre camarade de la CGT, quand on parle des droits des sans-papiers, on dit il faut leur donner les mêmes droits que les autres salariés. D'accord. Est-ce que la CGT va plus loin en disant il faut régulariser tous les sans-papiers? Et je vais encore plus loin. Quel est le discours de la CGT sur l'ouverture des frontières? Parce que on a tout à l'heure soulevé la question de réfléchir sur une protection sociale à frontières ouvertes. Moi, je suis pour la liberté de circulation de tous les citoyens du monde. Mais concrètement, c'est un discours que je n'arrive pas à porter de manière construite autour de moi. Alors que dit la CGT l'ouverture des frontières?
Alors déjà, moi je parle en tant que CGT Paris, donc je n'ai pas le mandat confédéral. Hein. La confédération ne s'est pas exprimée pour la liberté de circulation. Moi-même j'en ai parlé en tant que CGT Paris, parce qu'au niveau de l'Union départementale CGT de Paris... Puisque chaque structure, on est dans une structure fédérale, la CGT, vous savez bien. Donc nous, on est pour la liberté de circulation, parce que contrairement à ce que tu dis, je pense que beaucoup de gens Moi, tout à l'heure, ce que tu disais dans ton introduction sur le fait que les gens ne soient pas obligés de partir, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont envie de partir, comme nous, nous pouvons avoir envie, à un moment, moi j'ai vécu en Amérique du Sud, comme on peut avoir envie nous-mêmes de s'enrichir et de partir vivre ailleurs. Dans les migrations subsahariennes, il y a une culture de l'immigration aussi, qui n'est pas qu'un départ pour des causes politiques. Et en effet, moi j'estime que chacun a le droit de circuler dans ce pays. Et au niveau de l'UD de Paris, on est pour la liberté de circulation. Je l'ai dit d'ailleurs, sur la question de l'égalité des droits, j'estime que la frontière administrative dans ce pays, c'est le titre de séjour. Donc forcément, nous sommes pour la régularisation. Puisque le titre de séjour, c'est ce qui permet aux gens d'avoir les mêmes droits. Mais le titre de séjour, faut-il savoir lequel c'est, puisque on en parlait avec Mylène, c'est un titre de séjour qui doit être unique, pérenne, qui permet, renouvelable de plein droit, qui permet aux gens d'avoir les mêmes droits. Parce qu'un titre qui est soumis à, en effet, une absence de précarité, c'est-à-dire si le salarié est à temps partiel, il ne peut pas renouveler, tout ça, ça le met toujours dans une situation de discrimination. Donc ça, c'est une question importante. La carte de résident étant le meilleur outil, on va dire, d'intégration qui existe et qui a été d'ailleurs mis en place par le Parti Socialiste. Donc voilà, bon, je te donne l'avis de la CGT Paris. Après, pour la CGT, de manière générale, qui est plus sur une position de régularisation des travailleurs sans papier et de l'égalité de traitement entre salariés. Mais si on va un peu plus loin, ça veut dire... Donc c'est pas l'ouverture des frontières, ils vont pas aller là-dessus sur la déconstruction, mais quand même, ça veut dire, quand on discute avec la Confédération, ils sont sur une logique que même les travailleurs au noir doivent être régularisés. Donc ça concerne quand même la grande majorité des salariés sans papier de ce pays, des sans papiers de ce pays.
Monsieur au fond.
Oui, je voudrais juste, ça va être en prise aussi sur la dernière question qui vient d'être posée. Mais je reviens un tout petit peu en arrière sur ce qu'a expliqué tout à l'heure Marilyn sur le paradoxe entre ces travailleurs qui sont en camp de rétention, qui ne peuvent pas défendre leurs droits et qui ne peuvent pas avoir confiance dans le système puisqu'ils sont en camp de rétention, et les patrons qui sont convoqués mais qui en fait ne sont jamais condamnés. Alors, comme on est dans un lieu de réflexion ici, je pense qu'il est important de dire que ce n'est pas un paradoxe. C'est un double discours. C'est un double discours d'un pouvoir qui entérine complètement ce système d'exploitation. Et je crois que, moi, dans ce que j'ai entendu jusqu'à présent, il me semble que quand on pose la question de l'ouverture des frontières, on se laisse aussi avoir par... une taxinomie ambiante qui n'a pas lieu d'être, puisque ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est aussi que les frontières administratives avaient finalement plus de réalité que les barbelés à l'entrée des frontières. Donc, je crois qu'il faut commencer par travailler sur ce qu'on dit précisément. Et je crois que là, il y a une vraie lutte, parce que qu'on retourne aussi quelques années en arrière positivement. Si le monde universitaire s'est fait complètement avoir par Sarkozy au moment de la lutte contre la LRU, c'est bien parce qu'il y a eu des déplacements de mots dans l'opinion publique qui ont fait passer, par exemple, le mot « autonomie » pour ce qu'il n'est pas. Donc je crois que là, on est un petit peu dans le même genre de lutte. On ne peut pas appeler paradoxe ce qui est un double discours. On ne peut pas appeler frontière ce qui est une illusion de frontière. On ne peut pas appeler... on peut pas faire la distinction entre migrants et réfugiés, puisque de toute façon, ça relève de la même logique.